pourquoi l'alimentation équilibrée ne suffit plus et pourquoi un faible déficit en micronutriments a un fort impact sur votre santé à long terme, et on va même le mettre en diaporama de manière à profiter des animations. Vous me connaissez normalement, donc je me sais très vite, sauf Aurélie qui ne me connaît pas a priori, si ce n'est qu'elle doit savoir que je suis le père d'Anaïs, mais sinon mon travail c'est d'être consultant et je vais chercher de l'information, des fois très loin, comme à Salt Lake City cet été, où j'ai pu aller en tant que qualiticien me promener dans l'usine de fabrication du Zana pour poser des questions, questions qui peuvent être parfois pénibles pour ceux qui produisent, parce qu'en fait j'aime bien collecter de l'information et l'enseigner. Ça fait plus de 20 ans que j'enseigne. Mais je suis aussi interprète de conférences. Ça peut des fois être utile. Lorsque nous étions en Allemagne, ça nous a servi. Et puis, j'aime beaucoup donner accès à l'information, et notamment une des personnes que j'avais rencontrées cet été, c'est Brian Dixon, celui qu'on voit au centre sur cette photo-là avec Dan Whitney, qui est un scientifique ancien de l'Institut Linus Pauling, qui est docteur, bien sûr, et qui a fait une présentation sur Minds qui était très intéressante. Et il faut dire que Brian, c'est quelqu'un que j'avais interprété sur Paris. Donc j'avais encore beaucoup travaillé l'interprétation pour Minds. Donc je m'étais beaucoup plongé dans le message qu'il a passé. Et en tant que directeur de AskTheScientist.com, qui est un site internet qui diffuse de l'information dans le domaine de la nutrition, d'information validée scientifiquement, ça veut dire qu'il a quelque chose d'intéressant à nous propager comme message, surtout que c'est un très bon vulgarisateur. Alors, ce soir, on va essayer justement de voir et de propager quelque chose que j'ai découvert grâce à la rencontre avec un Canadien, un Québécois, Dominique Mascolo, qui nous avait fait l'honneur de venir dans notre région il y a 2 ans et que j'avais pu interviewer. Et au cours de l'interview, il y a toujours beaucoup d'informations qui passent comme ça quand tu discutes, mais l'avantage quand tu interviews, c'est que tu enregistres. Et quand tu enregistres, tu peux réécouter. Et quand tu réécoutes, des fois, tu captes des informations que tu n'avais pas prises. Et lorsque j'ai réécouté cette interview, parce que j'en avais fait un sous-titre aussi, Dominique Mascolo parlait des travaux d'un scientifique américain qui s'appelle Bruce Ames. Et donc, je suis parti à la pêche. À qui est Bruce Ames? Et qu'est-ce qu'il a à nous enseigner? Et donc, Bruce Ames, c'est un scientifique très âgé. Vous voyez, il est né en 1928. C'est quelqu'un qui a eu une carrière brillante, extraordinaire, puisqu'il est à l'origine d'un test simple, le test de Ames, c'est lui qui a montré ce qui, à l'époque, en 1952-55, n'était pas évident du tout. C'est que quand on a un cancer, on a en fait des problèmes de réparation de l'ADN. Donc c'est lui qui a montré que quelque chose de cancéreux provoque des problèmes de réparation de l'ADN. Et ça, ça nous est maintenant évident, on enseigne ça au lycée, mais à l'époque c'était pas clair du tout. Et il a inventé un test, le test de Ames, qui est facile, qui est pas cher, et qui permet de montrer si un composant va provoquer des cancers ou pas. Et comme il a focalisé ses travaux sur vieillissement et cancer, il a montré beaucoup de choses. Il a montré notamment que les mitochondries, nos centrales énergétiques, ont une place particulière dans le vieillissement. Et il est l'auteur de 450 publications, donc c'est quelqu'un qui fait référence, et il a formulé une théorie qui s'appelle la théorie du triage. Théorie de la garde de triage. Alors, le gros avantage de la garde de triage, vous voyez, je me base sur des choses qui ont été publiées, hein, Journal of Nucleic Acid, mais on va dire que ce soir, on va pas entrer dans les détails, parce que ce qui est intéressant, c'est de se dire, la garde de triage, c'est quelque chose qui nous fournit un cadre cohérent, qui permet d'expliquer, en fait, le lien qu'il y a entre des déficits en micronutriments et des maladies liées au vieillissement, comme par exemple. À votre avis, est-ce que vous pensez que les maladies liées au vieillissement, c'est quelque chose qui intéresse la population en Europe actuellement?
Oui, quand même, parce que c'est les maladies les plus courantes.
Nous, on est dans une civilisation où à 30, 40 ans, on se projette sur comment on va être à 60, 70, quoi.
Exactement. C'est pas les gens de l'âge d'Anaïs qui sont pour l'instant préoccupés par le vieillissement. Mais c'est surtout qu'on est entouré de tout un tas de gens qui, à 40, 50 ans, espèrent encore vivre 40, 50 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est fortement répandu. Et la théorie qu'a formulée Ames, elle est intéressante du coup parce qu'elle nous permet de se dire, bah tiens, il y a un lien, et il l'explique, et on va voir comment, entre un déficit en micronutriments et tout un tas de maladies qui sont liées au vieillissement. Donc, il n'y a pas que les cancers. Il y a le fait que ton cerveau fonctionne de moins en moins bien. Tu as des maladies cardiovasculaires, ça s'encrase dans les artères. Tu as des attaques cardiaques, tu as des choses comme ça qui font que, oui, la mécanique est plus celle du début, quoi. On n'a plus le corps qu'ont les jeunes filles de 19 ans qui sont avec nous ce soir. Ben, 25 ans plus tard, le poids des âges fait que le poids des années fait que t'aimerais avoir les mêmes fonctionnalités, mais tu les as pas. Et ce que nous, Ames nous apporte, c'est de dire, bah, regardez, j'ai une explication qui est cohérente et qui marche pour à peu près tout. Donc, ce soir, on va prendre la vitamine K et expliquer, donc, en matière de triage, qu'est-ce qui se passe. Donc, la vitamine K, elle est dans tout ce qui est coagulation, hein, d'où le K, comme coagulation. Elle est captée dans des kilomicrons. Et on va dire que le foie sert de triage. Alors, vous voyez que j'ai considérablement simplifié par rapport à ce que j'avais présenté la dernière fois. La vitamine K intervient dans des carboxylations qui sont importantes pour tout ce qui est coagulation. La coagulation, c'est vital à court terme. Mais la vitamine K intervient également dans des carboxylations qui sont importantes pour d'autres protéines. Des protéines qui, elles, sont importantes à plus long terme. Ostéocalcine, etc. Donc tout ce qui est relatif en fait à la colle, on est toujours dans la coagulation, mais de la coagulation de matrice osseuse. Et on voit bien que on comprend facilement que la coagulation à court terme, bah c'est important, et à plus long terme la structure osseuse quand on vieillit, oui c'est important. Mais comment, qu'est-ce qui fait notre corps finalement? Comment est-ce qu'il assure que le court terme prend le dessus sur le long terme? Eh ben, c'est cette fonction de triage. Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de cette manière, c'est que le fait que le foie concentre ses kilomicrons qui transportent la vitamine K, ça lui permet d'assurer de manière préférentielle toute la vitamine K qui circule va essentiellement aller assurer les fonctions de coagulation au détriment des fonctions de structure osseuse. Ça veut dire que si on a juste ce qu'il faut de vitamine K, ben, on va survivre. Mais on va pas être dans une santé optimale à l'avenir. Et c'est plutôt pas mal, parce que c'est beaucoup plus important pour la reproduction que nous survivions à court terme plutôt que nous n'ayons pas d'ostéoporose. Parce que ça nous ferait une belle jambe de ne pas avoir d'ostéoporose si on meurt après-demain parce qu'il y a un vaisseau qui a cassé à l'intérieur, parce qu'il n'a pas été capable de coaguler. Donc cette notion de triage, elle explique beaucoup de choses. Mais elle nous explique aussi que si on veut aller assurer les fonctions à plus long terme, on est obligé d'augmenter considérablement les doses de vitamine K par rapport à ce dont nous avons l'habitude de parler. Pour qu'il en reste suffisamment, parce que faut lutter contre la concentration naturelle sur tout ce qui est du court terme. Alors, je vais changer maintenant et je vais changer de représentation pour bien comprendre ça. Je vais prendre la vitamine B9 et avec des exemples, parce qu'on comprend mieux avec des exemples. La vitamine B9, quand on en manque, on a des crampes, on a des anémies, on est fatigué, on a des troubles du sommeil. Et puis finalement, là, le médecin va nous dire, ouais, ben, tu vas pas bien parce que tu es en carence de vitamine B9. Donc, il faudrait monter à un niveau un peu plus au-dessus. Mais quand on est à ce niveau-là, on n'est pas dans une santé optimale. Parce que la carence de vitamine B9 à long terme, c'est des dommages à l'ADN, c'est se préparer des cancers, etc. Et en fait, ce dont on aurait besoin, c'est beaucoup plus. C'est juste que, à l'instant T, on voit les crampes, anémie, fatigue, etc. Donc, quelqu'un qui manque de vitamine B9, à qui on apporte la vitamine B9, ben, il avait des crampes, il a plus de crampes, il se dit super, ça va bien, mais ça, c'est une notion de médicament. J'avais un problème, je l'ai plus. Alors que, ce qu'on voit, c'est que la santé à long terme, c'est une notion de prévention. C'est que je suis sur le niveau là à B9 qui me mettait hors crampe, mais j'étais pas super bien pour préparer à long terme avec la prévention. Donc on a besoin d'apporter plus. Mais quand on apporte plus, on ne voit pas forcément de changement. Parce que notre colonne de droite, celle qui est la plus à droite, elle ne nous montre pas à l'instant T de changement par rapport à la troisième. Celle qui montre un vrai changement, c'est celle qui est en 2 par rapport à la première. Mais de 3 à 4, dans le quotidien, on ne voit pas de changement. Ça va faire une différence à long terme, mais jour après jour. Et on reviendra sur cette notion de jour après jour. Et bien évidemment, on a de la marge quand même par rapport à en prendre trop. Parce que non plus, il ne faut pas croire que plus, c'est mieux. Hein, en biologie, quand on en prend trop, ça devient pas forcément bon non plus. Donc, on va chercher quelque chose qui nous permet d'être en santé optimale. Et ça, c'est ce que j'avais présenté la dernière fois. Mais je vous ai dit que lorsqu'on était à Mainz, on a rencontré de nouveau Brian Dixon et que cette fois-ci, il avait une présentation qui était très, très intéressante. Une photo qu'a pris Anaïs, là, qui est un peu fou parce qu'elle était prise de loin. Mais moi, qui l'interprétais, je peux vous dire que j'étais à fond, branché sur son cerveau, à bien essayer de comprendre qu'est-ce qu'il dit pour pouvoir transmettre ça en français au mieux. Et donc, je me suis approprié ce schéma. Et je vous propose donc, ce qui, à mon avis, a le plus de valeur ce soir, c'est de bien comprendre ce schéma-là. On va mettre en ordonnée la concentration circulante ou disponible pour nos cellules en fonction de la dose qu'on prend en milligrammes par jour. Et le phénomène dont parlait Brian, si on donne une dose de plus en plus forte, il y a un moment donné où ce qui est disponible pour les cellules ne va pas augmenter. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les apports journaliers recommandés, dont on parle de temps en temps et qui nous servent, et qui sont marqués sur les boîtes, qui servent de référence, ils ont été définis après-guerre pour assurer la survie de la population face au manque de nourriture. Les tickets de rationnement en France, je vous rappelle qu'ils ont été en circulation, je ne veux pas dire de bêtises, mais au moins jusqu'en 1948. Si c'est pas 1951, ça ne veut pas dire qu'en 45, paf, d'un coup, on a repris la vie normale. Ils ont été définis dans cette période-là. Comment je peux réduire au minimum ce que je donne à ma population pour pas qu'elle meure? Donc les apports journaliers recommandés, ils ont été là pour pas que les gens meurent. Alors qu'au-dessus, on a une zone qu'on appelle infraclinique où on n'a pas de maladie visible, mais où on est encore très loin d'une santé optimale. Et aujourd'hui, il y a consensus pour dire que la dose pour avoir une santé optimale est considérablement au-dessus des apports journaliers recommandés. Sans compter que sur certaines vitamines, les apports journaliers recommandés ont été divisés ou réduits par rapport à ce qu'ils étaient après-guerre. Pour d'autres raisons. Mais c'est parce qu'on se rend compte que la population les atteint pas. Je suis en train de dire que les gens, ils atteignent pas ce qui est pour être en santé hors maladie. Alors qu'il y a consensus pour dire qu'il faut beaucoup plus. Bah, sur la vitamine C, par exemple, la JR, il est dans les 75-90 mg par jour. Mais aujourd'hui, il y a consensus pour dire qu'on a besoin d'être au-delà de 500 mg par jour. Et là, au-delà de 500 mg par jour, on rentre santé optimale et micronutrition. Ce sont des choses qui sont dans ces zones-là, au-delà. Ça veut dire que on se rend compte aujourd'hui c'est tout à fait logique que lorsqu'on parle de micronutrition à quelqu'un et qu'on lui apporte plus qu'avant, il ne voit pas de différence dans sa santé immédiatement. Parce que il était en zone infraclinique où il voyait pas de maladie, il passe en santé optimale, normal qu'il voit pas de différence au jour le jour. À l'inverse, on rencontre beaucoup de gens qui pensent être quelque part là-dedans en zone infraclinique, ils sont au-dessus des AGR, ils disent je mange équilibré, j'ai pas besoin de tout ça. Ils voient pas le besoin puisqu'ils sont pas malades, ils disent je suis pas malade, je vois pas pourquoi j'aurais besoin de prendre ce que tu me proposes. Tant qu'on leur a pas expliqué ça, c'est normal qu'ils le comprennent pas. On est bien en train de parler de prévention. On est dans ce qui permet jour après jour, on n'est pas dans la nutrithérapie. La zone nutrithérapie ici, ça c'est un acte du médecin, donc ça va être le métier d'Anaïs, qui est d'utiliser des vitamines et des minéraux, mais à des doses considérablement plus élevées, pour obtenir un effet médical. J'ai rien mis là-haut parce que je sais pas ce que ça fait. Mais ça, c'est de la nutrithérapie. Alors que ce dont nous parlons ici en matière de micronutrition, on reste dans de la prévention jour après jour. On n'est pas sur un usage médical des vitamines et minéraux. Mais on est quand même sur quelque chose qui est considérablement plus puissant que d'être là et d'espérer par un miracle dont je ne sais quoi que la nourriture qui aujourd'hui n'a plus la même valeur que par le passé apporte ce qu'il faut pour être en bonne santé. Ce qui était intéressant aussi dans la présentation de Brian Dixon, c'est qu'il avait concentré sur la même graphe. Ici, cette courbe, la petite là, celle que vous voyez en pointillé, et donc que je vous ai mis ici, qui est dire, maintenant, réfléchissons à, on a la concentration en fonction du temps. On a donc amené, quand on prend un complément alimentaire, on amène les concentrations pour nos cellules dans une zone de santé optimale. Mais si on fait rien, au bout de 12 heures, on redescend. Donc, vous voyez que lorsqu'on est en train de dire à quelqu'un, pour ta santé, pour être en santé optimale, tu as besoin d'apporter à tes cellules jour après jour ce dont elles ont besoin, et c'est beaucoup plus que les apports journaliers recommandés. On est en train de lui dire tous les jours, et la personne souvent te dit, attends, mais vous prenez ça tous les jours? Eh ben, notre réponse, c'est matin et soir. Parce que si les niveaux disponibles pour les cellules rebaissent en 12 heures, ben moi je prends mes compléments alimentaires le matin et le soir. Je les prends les plus éloignés possibles pour avoir mes 12 heures des 40, c'est-à-dire le matin à 7 heures et le soir à 20 heures. Ce qui me permet d'être constamment dans la zone de santé optimale, c'est-à-dire que j'apporte à mes cellules ce dont elles ont besoin pour fonctionner en santé optimale. Donc vous voyez que ça devient totalement cohérent d'aller apporter et de donner à nos cellules ce dont elles ont besoin pour fonctionner et toujours pour lutter contre cette tendance à concentrer sur les processus de court terme au détriment de long terme. Puisque bien évidemment, on est sur quelque chose qui se prépare jour après jour en prévision de nos vieux jours. Et les vieux jours, bah, ça démarre à partir du moment où le corps est plus optimal, c'est-à-dire 20 ans, quoi. On en est déjà à peu près là. Parce que lorsqu'on a commencé à parler des mêmes processus pour la peau, on se rend bien compte, Bénédicte et moi, que oui, ok, on a des rides. Si on avait commencé plus tôt à s'occuper de la santé de notre peau, on n'aurait pas forcément les rides qu'on a aujourd'hui. Et puis, on a des tas de gens comme ça qu'on rencontre. S'ils avaient commencé à s'occuper plus tôt de leur santé, les problèmes qu'ils ont eus là ou là, qui se manifestent déjà, ben, ce serait pas manifesté. Et pour certains, ils ont franchi la zone de non-retour. Fort heureusement, et c'est ce qui nous avions également abordé avec Dominique Mascolo dans cette interview que vous pouvez retrouver sur YouTube, c'est qu'il y a une grande partie de ces processus qui sont réversibles. Puisque Dominique Mascolo, qui était passé de 97 à 71 kilos, ben, il n'a pas toujours été à 97 kilos. Il a pris du poids et il a réussi à revenir. Donc on est dans la notion de réversibilité. Donc ça nous donne un fort espoir parce que ça veut dire que finalement, on a beaucoup de clés en main personnellement dans la façon dont nous nous alimentons pour prendre le chemin qu'on veut. Par effet cumulé, nous pouvons choisir soit d'être dans une zone infraclinique et de nous préparer des problèmes, soit dans une santé optimale et d'avoir un fonctionnement qui est optimal. Alors, on n'est pas les seuls à dire ça. Je vous ai mis ici l'alternative bien-être. Alternative bien-être, courrier des lecteurs. Vous avez durée de prise des compléments alimentaires. Vous avez Chantal qui dit « Pendant combien de temps faut-il prendre des compléments alimentaires ?»« Je ne peux pas tout prendre indéfiniment et je suis un peu perdu. » Donc, vous voyez, là, on a une barrière mentale qui est de dire « J'ai une situation, je suis pas bien. » Je prends un complément alimentaire, je vais mieux, et après j'arrête. Pour moi, ça répond à aucune logique. Si je vais mieux, pourquoi j'arrêterais? Pour le plaisir de vérifier qu'on revient bien dans l'état où j'allais moins bien. Et la réponse en face, elle est intéressante. Il dit, ben, il est conseillé de les prendre sur le long terme, voire indéfiniment. Parce que si on veut en tirer les bénéfices en termes de prévention, ben, ils vont se faire en termes de prévention, jour après jour. Si vous avez un problème de budget, ben, on vous conseille de choisir une base de quelques produits dont les bénéfices sont réellement avérés, c'est-à-dire pas un produit dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans et qui ne tient pas ses promesses. Et donc, qu'est-ce qu'il conseille? Un complément multivitaminé, de la vitamine D de base et le reste en cure. Donc, c'est exactement ce que nous faisons dans notre famille puisque nous prenons un complément multivitaminé sur toute l'année qui apporte un peu de vitamine D et l'hiver, nous ajoutons encore plus de vitamine D en cure. Et selon les besoins, on ajoute des probiotiques en cure. Mais pour ma part, je trouve qu'on a de la chance puisqu'on a trouvé un fabricant Usana, qui est un fabricant qui tient ses promesses, et je dis toujours à tous les gens que je rencontre, c'est pas à moi de te convaincre, c'est à lui de le faire par ses produits. Parce qu'il met la science qu'il faut, j'ai été dans l'usine, il met les processus pharmaceutiques pour délivrer un complément alimentaire au même niveau qu'un produit pharmaceutique, garantir ce qu'il y a dedans, et puis il nous apporte un produit de base, les essentiels, des oméga 3, pareil, dont on manque, qui sont la base. Alors, l'équivalent chez les ados, c'est le Bodyrox. Et puis, les optimiseurs, que ça soit le Magnécal, ou le Proflavanol, ou le produit haut de gamme, qui est le Health Pack. Ce qui veut dire que là, on a un produit dont les bénéfices sont avérés. Et qu'on prend jour après jour. Et on n'est pas les seuls à le dire, puisque le guide NutriSearch, qui a été mis en place suite aux travaux qu'a mené Lyle McWilliams, c'est quand même un comparatif solide, organisé, et qui montre qu'Usana arrive largement au-dessus de tous ses concurrents dans ce domaine. Et maintenant, en plus, avec la technologie Intelligence, qui fait appel à l'intelligence innée des cellules, on a quelque chose d'extrêmement puissant et qui va aller soutenir la réponse personnalisée de chaque cellule. Donc, on a de quoi aider les gens face à cette problématique qui aurait été de dire « Ok, j'ai bien compris que l'alimentation moderne s'est tellement appauvrie, elle me permet éventuellement d'être là, mais elle me permet pas d'être là. Comment je peux faire ? Eh bien, j'ai un fabricant qui m'apporte une solution. Elle me pose un problème de budget, super, il nous donne la possibilité d'en parler et de nous construire un business qui permettent de bâtir des revenus. Les deux vont ensemble et c'est cohérent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, tout notre message, le message fort qu'on propage, c'est de dire des faibles déficits en micronutriments qui sont pas suffisants aujourd'hui pour que ça se manifeste par des maladies ne sont pas visibles à court terme, mais ils vont avoir un fort impact à long terme. Et en plus, une partie des gens qu'on rencontre, ils ont déjà la manifestation aujourd'hui de déficit, parce que quand tu as des gens qui te disent « Ah, je manque d'énergie, mes cartilages sont abîmés, j'étais en passesse et j'en suis sorti lessivé ben, », c'est qu'ils étaient à leur limite. Alors qu'en ramenant, ben, je prends l'exemple de passesse, en ramenant des oméga-3 et des essentiels à demi-dose ou le Bodyrox, ben, on apporte déjà de quoi mieux fonctionner à fond la caisse. Et ça, moi je parle aussi d'expérience, parce que durant mes années en classe prépa, je ne m'en serais pas sorti si j'avais pas eu des compléments alimentaires. Alors, j'avais pas Usana à l'époque, mais j'avais un complément alimentaire tous les midis, d'autres produits tous les soirs et un autre tous les matins. Et je m'en serais pas sorti sans. Et quand bien même, au bout des 2 ans, j'ai mis 6 mois à m'en remettre. Donc, moi, je sais ce que je dois aux compléments alimentaires en matière d'études. Donc quand je vois des étudiants qui mangent pas top et qui travaillent à fond la caisse, je me dis mais on a vraiment de quoi propager le message. Alors ce qui me semble vraiment important à comprendre, bah, c'est que nous sommes suralimentés mais sous-nourris. Et on a besoin de compléments alimentaires dans la durée. Et par chance, on en a trouvé qui tiennent leurs promesses et qui tiennent la route avec une équipe en qui, moi, j'ai confiance, parce qu'il y a 85 chercheurs à temps plein, travaillent avec 21 universités, Et à force de côtoyer John Cuomo, Brian Dixon, de discuter avec eux, on se rend compte qu'ils savent ce qu'ils font. À nous simplement de propager le message. Et c'est ce qu'on fait, quoi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir, mais j'imagine que vous avez des questions. Si vous avez des questions, c'est le moment de contacter la personne qui vous a partagé ce fichier audio.